Radio Kapi.
Le journal. Noëlla Lozito Kabambi à la présentation.
Félix Antoine Tshisekedi est à Kisangani dans la Tchopo depuis hier mercredi. Il a visité ce jeudi plusieurs lieux et installations, dont le cimetière du Génocoste où reposent les victimes de la guerre de six jours, le stade Lumumba en réhabilitation ainsi que le bureau du FRIVAO, fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. L'Organisation mondiale de la santé OMS RDC se félicite du succès de la campagne de vaccination contre le Mpox menée dans quelques provinces du pays. Le représentant de l'OMS en RDC, Dr Bureima Amasambo, estime que plus de 90% des personnes ciblées pour cette vaccination ont été atteintes. Serge Mushigo est notre invité. Il est le DGA de la société minière Punyaka Sese Mining PKM. Cette entreprise a réhabilité l'aérodrome de Basenge dans la commune rurale de Punya, province du Maniema. Bonsoir à tous. Deuxième jour ce jeudi du séjour du chef de l'État à Kisangani, province de la Tshopo. Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu au stade Lumumba afin de se rendre compte des travaux de réhabilitation en cours. Mais auparavant, il s'est recueilli au cimetière de Génocoste où reposent les victimes de la guerre de six jours à Kisangani. Puis il a visité aussi les installations du fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda RDC FRIVAO. À cette occasion, il a remis un chèque à l'église catholique qui avait aussi subi des affres de la guerre de six jours à Kisangani. Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate s'est dit satisfait de ce geste. Plus de détails avec vous, Jacques Moukonkole.
En recevant ce document pour le retrait d'une somme de 2 500 000 dollars américains, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate n'a pas caché sa satisfaction et ses remerciements à l'égard du FRIVAO, du ministre de la Justice ainsi qu'au chef de l'État. Selon lui, cette somme est une première tranche des 4 millions sollicités pour les dommages que l'Église catholique a subis pendant la guerre de six jours. Nos écoles, nos paroisses, nos communautés ont été endommagées, a-t-il déclaré. Il a émis le vœu de voir le FRIVAO poursuivre ses opérations pour l'indemnisation de toutes les vraies victimes. Ainsi, leurs larmes seront essuyées, a-t-il renchéri. Pour sa part, le coordonnateur intérimaire de cet établissement public a révélé qu'en vue de permettre aux victimes certifiées de percevoir rapidement leur indemnisation, il a obtenu de la Rawbank l'ouverture d'un guichet dans ses installations. Chansar Borokola appelle donc les victimes dont les noms ne sont pas encore affichés à la patience. Il a remercié le chef de l'État pour s'être rendu dans ces lieux, signe de l'attention qu'il accorde au FRIVAO, une institution qu'il a créée afin de prendre en charge les questions relatives à l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda dans la Grande Orientale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
En ce qui concerne le message politique du président de la République, déjà hier même, s'adressant à la population de Kisangani à la place de la Poste après son arrivée, Félix Tshisekedi a évoqué la question d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Jonas Tshombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, estime que ce projet du chef de l'État de la rédaction d'une nouvelle constitution pour la RDC est inopportun pour le pays. D'après lui, le pays vit sous un statut particulier de l'état de siège, ce qui ne permet pas de changer ou de modifier sa constitution. Jonas Tshombela le dit au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Ce qu'on n'a pas pu dire à la population, quand on change la constitution, c'est qu'on remet tout à zéro. Donc les compteurs seront à zéro. Qu'est-ce qui va changer au quotidien du Congolais lorsque la constitution sera changée? La raison avancée ne tient pas parce qu'elle a été faite par les étrangers et que ce n'était pas notre constitution. Mais celui de PES qui a combattu la révision de la constitution avec le président Joseph Kabila qui a tenté de changer. C'est aujourd'hui lui de PES qui revient à la charge de changer la constitution. Nous pensons que la constitution est changeable, ce qui est vrai. Mais le moment choisi par lui de PES, au terme de l'article 219 de la constitution de la République, on ne peut pas changer la constitution pendant la guerre. Le pays est en guerre. On ne peut pas changer la constitution pendant l'état de siège. Le pays est sous état de siège. Qu'est-ce qui changera au quotidien du Congolais lorsque la constitution sera changée? Nous pensons que le moment choisi par le chef de l'État pour annoncer cela le détourne de vrais problèmes des Congolais. La priorité des Congolais, c'est la sécurité, c'est l'intégrité du pays, c'est l'arrêt avec le pillage de nos richesses qui est organisé dans les territoires sous occupation. C'est ça la priorité des Congolais.
De son côté, la plateforme politique Lamuka de Martin Fayulu dit contester farouchement ce projet aussi. Selon Prince Epengue, porte-parole de Lamuka, l'actuelle constitution a cimenté l'unité du peuple congolais. Autant le peuple avait dit non à sa modification sous le règne de l'ex-président Joseph Kabila, autant il dira non sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, affirme Prince Epengue. Ses propos sont recueillis par Askin Zibia Tayoro.
Monsieur Tshisekedi fait du changement de la Constitution sa priorité au détriment des vraies questions prioritaires auxquelles il faut donner solution. La Constitution qu'il tente péniblement de vilipender a cimenté l'unité de notre pays par voie référendaire. D'ailleurs, son père, Étienne Tshisekedi, docteur en droit, n'avait-il pas presté serment si la même constitution? Nous espérons que Félix assumera jusqu'au bout les conséquences désastreuses de son aventure. Le peuple avait dit non à la modification ou au changement de la constitution sous Joseph Kabila. Le peuple est prêt à dire non au changement de la constitution ou à sa modification sous Monsieur Félix Tshilombo. Félix donne une raison pour appliquer l'article 64.
Nous vous le disions dans le sommaire, la campagne de vaccination contre le Mpox en RDC est un succès dans les provinces où elle se déroule. Déclaration ce jeudi à Radio Okapi du représentant de l'OMS en RDC, Dr Bureima Amasambo, estime que plus de 90% des personnes concernées par la vaccination au cours de cette première phase ont été atteintes dans quelques provinces du pays. La campagne de vaccination contre Mpox a commencé au début du mois d'octobre par le Nord et le Sud Kivu avant de s'étendre vers les autres province. On écoute Dr Bureima Amasambo, représentant de l'OMS en RDC, au micro de Stanislas Diumi.
Si on considère les cibles qui ont été définies pour cette campagne, nous pourrons dire que ça a été vraiment un succès. Puisque par rapport aux chiffres, aux cibles plutôt, il y a des campagnes et des provinces qui ont déjà atteint 100% de ce qui était ciblé. C'est notamment le Sankuru, le Sud-Ubangui et la Tshopo. Mais grosso modo, au point de vue national, sur la cible initiale de micro-planification, c'est plus presque 90% de la cible qui a été déjà vaccinée à cette première dose. Comme vous savez, le vaccin que nous utilisons, c'est un vaccin dont l'immunisation se passe en deux doses. Donc il y a une première vaccination, une première dose ou les premiers antigènes qui sont administrés et il y aura à peu près un mois après le passage à la deuxième dose pour que la personne vaccinée, qu'on considère qu'elle est complètement immunisée. Donc nous pouvons dire, si on parle d'un taux, ça fait 12 jours, 2 semaines de vaccination. Si on est vraiment à presque 90% à l'échelle de ces 6 provinces, nous pouvons dire que la campagne a été un succès.
Pendant ce temps, la province du Haut-Katanga a enregistré ses tout premiers cas de Mpox. Annonce faite hier par la ministre provinciale intérimaire de la Santé, sans toutefois donner ni l'âge ni le sexe des malades, encore moins les zones de santé où les deux cas ont été enregistrés. Elle a par ailleurs appelé toute la population à la vigilance pour lutter contre la propagation de cette maladie. On écoute Valérienne Mumba Kiboko, ministre provinciale intérimaire de la Santé dans le Haut-Katanga, dans ses propos recueillis par Jean Gandou.
Notre province du Haut-Katanga vient de notifier 2 cas confirmés. Pour nous protéger contre cette maladie, le gouvernement provincial recommande éviter tout contact physique ou sexuel avec toute personne qui présente les signes de Mpox ou toute autre excrétion ou liquide provenant des personnes malades. Éviter tout contact direct avec un animal domestique ou sauvage, malade ou sans produit. En cas de contact avec une personne malade ou un animal suspect de Mpox, lavez-vous immédiatement les mains avec du savon ou de la cendre, puis rendez-vous au centre de santé le plus proche. Évitez la manipulation des corps des malades décédés suite au Mpox et pour la prise en charge des malades qui souffrent de Mpox, le gouvernement provincial garantit une prise en charge gratuite dans les hôpitaux généraux de référence des 27 zones de santé situées dans les communes et territoires de notre province.
317 cas de violation des droits de l'homme ont été recensés en RDC au cours du mois de septembre 2024. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ces incidents ont fait 1400 victimes sur l'étendue du territoire national. Le nombre des victimes enregistrées au mois de septembre est plus important que celui du mois d'août dernier, indique le BCNUDH. Ronéline Tibonera a parcouru pour nous ce rapport.
Dans ce rapport, la ville-province de Kinshasa arrive en tête de province ayant enregistré plus des cas de violations de droits humains. Ceci résulte de la tentative d'évasion enregistrée le 10 septembre 2024 à la prison centrale de Makala. Au cours de cet incident, cette branche onusienne indique que 150 détenus ont perdu la vie. Dans les zones en proie au conflit, on peut plus de 250 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées. Cela représente une diminution de 13% par rapport au mois précédent où l'on a enregistré 287 cas. Ce rapport révèle que le meurtre et la mutilation ont été les violations les plus fréquentes dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Parmi les acteurs de violations de droits de l'homme figurent les groupes armés dont le M23 qui arrive en tête, suivi de la milice Codeco, puis la PCLS et les ADF. Dans le province non affectée par les conflits, le BCNUDA signale une augmentation de violations et atteintes aux droits de l'homme par rapport au mois précédent. Cela s'explique par une augmentation des cas documentés d'arrestation et détention arbitraire, par les dépassements du délai légal de garde à vue dans le province des Kinshasa et du Haut-Katanga.
Sur le terrain des affrontements au Nord Kivu, des violents combats ont opposé dans la matinée de ce jeudi le M23 aux groupes armés locaux sur deux fronts dans le territoire de Masisi. C'est notamment à Kikoroa, près de Kalembe, ainsi qu'à Luama, dans la chefferie des Bachali. Selon plusieurs sources locales, la situation restait tendue en ce quatrième jour de combat dans cette zone. Bernard Danyangi.
C'est depuis 5 heures locales que les groupes de volontaires pour la défense de la patrie VDP Ozalendo ont lancé des attaques simultanées sur les deux positions tenues par les rebelles du M23 RDF sur ces deux axes de la chefferie de Bachali. D'une part, ce sont les combattants Nyatura de Jean-Marie qui ont attaqué le M23 dans le village Luama sur la colline Mulindi, ouest de Mpati. Ce serait en représailles après les attaques des rebelles contre leur position hier mercredi à Kaira, indiquent nos sources. Elles ajoutent que les détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué de nouveaux mouvements de population de la zone. Par ailleurs, après qu'ils ont été repoussés de Kalembe, Kalongé et Yula hier, les combattants de NDC rénovés sont revenus à la charge, attaquant une position de couverture des rebelles M23 sur la colline Kikoa, entre Kalembe et Kashuga, tôt ce jeudi. Certaines sources indiquent que ces hommes de Mouissa Guidon aurait repoussé les quelques rebelles M23 et occupe à présent cette colline. Toutefois, une accalmie est observée à Kalembe et environ, occupée depuis hier par les rebelles M23. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Dans le social, notez que la ville de Gbadolité, dans le nord Ubangi, est encore une fois dans le noir depuis 4 jours. En cause, une fuite d'huile constatée au niveau de l'unique turbine encore en marche, ce qui a conduit à l'arrêt momentané de la centrale. En attendant, les habitants sont dans le noir avec une certaine paralysie des activités socio-économiques. La SNEL s'affaire à dépanner la centrale avec des moyens de bord. Le directeur de production de transport du Nord Équateur dit envisager une fourniture rotative de l'électricité au centre-ville. Ingénieur Maurice Ewango l'explique au micro de Paul-Richard Malengela.
Nous étions obligés d'arrêter le groupe pour ne pas continuer à perdre inutilement les huiles et intervenir. Et nous avons commencé l'intervention. Cette roue se trouve immergée dans l'eau, dans la conduite. Et pour y intervenir, il faudra mettre le batardeau amont et aval, vidanger la conduite et accéder à la roue pour intervenir. Nous n'avons pas pu accéder au niveau de la roue parce que les batardeaux ne sont pas étanches. L'eau de la rivière Ubangi continue à s'infiltrer. Donc on n'a pas pu intervenir suite à l'infiltration de l'eau. Aujourd'hui, nous allons utiliser une méthode traditionnelle, c'est-à-dire nous allons essayer d'injecter le mélange limonite plus les copeaux de bois pour augmenter l'étanchéité au niveau des batardeaux et intervenir. Et si nous n'arrivons pas à assurer l'étanchéité des batardeaux, on sera obligé de faire recours à nos plongeurs qui sont présentement à Inga. Dans l'entretemps, à partir de ce soir, nous allons commencer à alimenter une partie de la ville à l'aide de deux groupes de secours situés au niveau de la ville.
Actualité internationale.
Daniel Chapeau, ancien gouverneur provincial âgé de 47 ans et candidat de Frelimo, sera le prochain président du Mozambique. La commission électorale l'a annoncé ce jeudi, plus de deux semaines après le scrutin du 9 octobre. Daniel Chapeau a obtenu près de 71% de voix contre 20% des suffrages pour l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire et dénonce des fraudes. Fraudes dénoncées aussi ce jeudi après-midi par des centaines de manifestants dans les rues de Maputo, la capitale. Ils ont aussi dénoncé le meurtre de deux figures de l'opposition le week-end dernier.
L'invité.
La société minière Punya KCC Mining PKM vient de réhabiliter l'aérodrome de Basenge dans la commune rurale de Punya. Nous sommes dans la province du Maniema. Le directeur général adjoint de PKM qui le dit fait savoir aussi que les travaux sont terminés et il n'attend que les homologations de la RVA pour que cet aérodrome redevienne opérationnel. Serge Mouchigo est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Serge Mouchigo, bonjour.
Bonjour Madame Lunga.
Vous êtes à quelle étape avec les travaux de réhabilitation de l'aérodrome des Basenge, plus précisément dans les territoires des Punya?
L'aérodrome est terminé. Donc, on a réussi à faire 2 kilomètres d'asphalte. Tout est opérationnel. Nous sommes à l'étape d'attendre les homologations de la RVA.
Ah, c'est quoi les motivations des PKM en réhabilitant seulement l'aérodrome des Basenge?
D'abord, un sentiment de fierté, un sentiment très, très, très engagé au niveau de la population parce que cet aéroport, c'est déjà pas seulement pour le côté logistique de PKM, mais c'est aussi pour donner un aéroport à la population de Punya. Comme vous savez, l'aéroport actuel est quand même dans un état très inquiétant. Alors, donc, il nous fallait avoir un aéroport moderne, vraiment dans des standards internationaux, capable d'accueillir même de gros avions. Et nous sommes fiers d'avoir réalisé ça.
Alors, pourquoi seulement réhabiliter l'aérodrome de Basenge et laisser l'autre aérodrome de Kalombeniama?
Très bonne question. Je vous fais d'ailleurs, moi, je suis le DGA donc, qui vient de la partie Sakima. Et l'année passée, j'ai accompagné Sakima à une convocation de l'organisme l'OASI. Parce que justement, l'année passée, il y a eu un avion qui a raté son atterrissage. Donc, nous avons commencé par l'aéroport à Punya, mais le prochain, on estime probablement dans une année et demie, on va attaquer celui des KCC. Comme ça, les deux aéroports seront opérationnels.
C'est-à-dire, votre objectif, c'est pour faciliter les transports de vos minerais?
Nous ne voyons pas ça comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est nous avons une vision de développement pour Punya. C'est-à-dire, nous voyons Punya comme tout un écosystème à mettre en place. Donc nous voulons, oui, développer le secteur minier, mais nous voulons aussi permettre à ce que la ville, la cité de Punya devienne pratiquement le prochain Goma de demain. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des aéroports, il faut qu'il y ait l'énergie, il faut qu'il y ait tout ça. Donc notre but, c'est de créer aussi cette infrastructure qui va appeler d'autres investisseurs, notamment nous-mêmes, parce que nous en dehors des mines, il y a quand même un groupe financier assez intéressant qui s'intéresse aussi à d'autres choses qu'on peut pouvoir développer à travers une logistique qui va permettre à cet essor.
Vous cherchez les développements de la ville de Punya. Pourquoi alors on n'est pas aussi pensé à la réhabilitation des routes?
La réhabilitation des routes, nous le faisons en même temps. C'est-à-dire, il faut commencer quelque part. Donc, nous avons commencé par l'aéroport pour une raison bien simple. Parce qu'il y a énormément de matériel que nous devons faire venir sur place, que nous avons justement pas pu faire venir par voie de route. Alors, avec l'aéroport, les autres engins vont arriver et nous allons continuer au niveau des routes parce que de Punya à KCC, il y a 56 kilomètres déjà qu'on a réussi à réhabiliter sur les 135 kilomètres qui nous séparent des KCC. Mais nous allons en même temps continuer et finir, relier tous les 135 kilomètres et effectivement d'autres rues, même au niveau de Punya Centre, nous avons vraiment l'intention d'asphalter un peu partout et de créer des routes pour désengorger pratiquement tout.
Monsieur Serge, combien vous a coûté cet asphalte de l'aérodrome des Basenge, si ce n'est pas un secret?
Disons, à cette étape, je n'ai pas les chiffres exacts pour la simple raison qu'il y a une division spécifique qui s'en occupe, mais je vous promets de vous revenir là-dessus pour vous donner l'information avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie.
Alors, comment évoluent maintenant les activités des PKM dans cette ville de Punya?
Donc, la première étape, la condition pour pouvoir avancer, c'était l'aéroport. Maintenant que c'est fait, nous sommes en pourparlers avec Sakima pour commencer à réhabiliter le barrage de Belia. la centrale hydroélectrique de Belia, justement. Parce que, bon, comme vous le savez peut-être, mais au niveau de Pounia, il y a deux turbines. Il y en a une qui fonctionne à moitié, qui peut lâcher n'importe quand. Donc, nous venons, pour pouvoir booster ça, aller jusqu'à au moins 9 mégawatts de production, ce qui va pouvoir donner un bon courant au niveau de Pounia. À ce moment-là, pratiquement en même temps, nous commençons l'industrialisation, mais une fois que le barrage sera opérationnel, le fonctionnement en plein régime de nos usines vont commencer.
Monsieur Serge Mouchiko, je vous remercie.
Merci, c'était un privilège de pouvoir parler à Radio Okapi, mais je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, l'édition du soir présentée en langue française sur Radio Okapi. Présentation Noéla Luzitu Kabambi, mise en onde d'Eps Vita, le tout dans une coordination de Jude Bilanda sous la supervision de Pele Kipela Mondo. Merci à vous tous de nous avoir suivis.